Livre 2, deuxième partie. Avant que d'aller plus loin, je dois au lecteur mon excuse ou ma justification, tant sur les menus détails où je viens d'entrer que sur ceux où j'entrerai dans la suite et qui n'ont rien d'intéressant à ses yeux. Dans l'entreprise que j'ai faite de me montrer tout entier au public, il faut que rien de moi ne lui reste obscur ou caché. Il faut que je me tienne incessamment sous ses yeux, qu'il me suive dans tous les égarements de mon cœur, dans tous les recoins de ma vie, qu'il ne me perde pas de vue un seul instant, de peur que, trouvant dans mon récit la moindre lacune, le moindre vide, et se demandant « Qu'a-t-il fait durant ce temps-là ?» il ne m'accuse de n'avoir pas voulu tout dire. Je donne assez de prise à la malignité des hommes par mes récits, sans lui en donner encore par mon silence. Mon petit Pécule était parti. J'avais jasé, et mon indiscrétion ne fut pas pour mes conducteurs à pure perte. Madame Sabran trouva le moyen de m'arracher jusqu'à un petit ruban glacé d'argent que Madame de Varens m'avait donné pour ma petite épée, et que je regrettais plus que tout le reste. L'épée même eût resté dans leurs mains si je m'étais moins obstinée. Ils m'avaient fidèlement défrayée dans la route, mais ils ne m'avaient rien laissé. J'arrive à Turin sans habit, sans argent, sans linge, et laissant très exactement à mon seul mérite tout l'honneur de la fortune que j'allais faire. J'avais des lettres, je les portais, et tout de suite je fus menée à l'hospice des catéchumènes pour y être instruit dans la religion pour laquelle on me vendait ma subsistance. En entrant, je vis une grosse porte à barreaux de fer qui, dès que je fus passée, fut fermée à double tour sur mes talons. Ce début me parut plus imposant qu'agréable et commençait à me donner à penser quand on me fit entrer dans une assez grande pièce. J'y vis pour tout meuble un autel de bois surmonté d'un grand crucifix au fond de la chambre et autour quatre ou cinq chaises aussi de bois qui paraissaient avoir été cirées mais qui seulement étaient luisantes à force de s'en servir et de les frotter. Dans cette salle d'assemblée étaient quatre ou cinq affreux bandits, mes camarades d'instruction, et qui semblaient plutôt des archers du diable que des aspirants à se faire enfants de Dieu. Deux de ces coquins étaient des esclavons, qui se disaient juifs et morts, et qui, comme ils me l'avouèrent, passaient leur vie à courir l'Espagne et l'Italie, embrassant le christianisme et se faisant baptiser partout où le produit en valait la peine. On ouvrit une autre porte de fer qui partageait en deux un grand balcon régnant sur la cour. Par cette porte entrèrent nos sœurs les catéchumènes qui, comme moi, s'allaient régénérer, non par le baptême, mais par une solennelle adjuration. C'étaient bien les plus grandes salopes et les plus vilaines coureuses qui jamais aient puanti le bercail du Seigneur. Une seule me parut jolie et assez intéressante. Elle était à peu près de mon âge, peut-être un an ou deux de plus. Elle avait des yeux fripons qui rencontraient quelquefois les miens. Cela m'inspira quelque désir de faire connaissance avec elle. Mais pendant près de deux mois qu'elle demeura encore dans cette maison, où elle était depuis trois, il me fut absolument impossible de l'accoster tant elle était recommandée à notre vieille geôlière et obsédée par le saint missionnaire qui travaillait à sa conversion avec plus de zèle que de diligence. Il fallait qu'elle fût extrêmement stupide, quoiqu'elle n'en eût pas l'air, car jamais instruction ne fut plus longue. Le saint homme ne la trouvait toujours point en état d'abjurer. Mais elle s'ennuya de sa clôture et dit qu'elle voulait sortir, chrétienne ou non. Il fallut la prendre au mot, tandis qu'elle consentait encore à l'être, de peur qu'elle ne se mutinât et qu'elle ne le voulût plus. La petite communauté fut assemblée en l'honneur du nouveau venu. On nous fit une courte exhortation, à moi pour m'engager à répondre à la grâce que Dieu me faisait, aux autres pour les inviter à m'accorder leurs prières et à m'édifier par leurs exemples. Après quoi, nos vierges étant rentrées dans leur clôture, j'eus le temps de m'étonner tout à mon aise de celle où je me trouvais. Le lendemain matin, on nous assembla de nouveau pour l'instruction. Et ce fut alors que je commençai à réfléchir pour la première fois sur le pas que j'allais faire et sur les démarches qui m'y avaient entraîné. J'ai dit, je répète et je répéterai peut-être encore une chose dont je suis tous les jours plus pénétrée. C'est que si jamais enfant reçut une éducation raisonnable et saine, ça a été moi. Née dans une famille que ses mœurs distinguaient du peuple, je n'avais reçu que des leçons de sagesse et des exemples d'honneur de tous mes parents. Mon père, quoique homme de plaisir, avait non seulement une probité sûre, mais beaucoup de religion. Galant homme dans le monde et chrétien dans l'intérieur, il m'avait inspiré de bonne heure les sentiments dont il était pénétré. De mes trois tantes, toutes sages et vertueuses, les deux aînées étaient dévotes, et la troisième, fille à la fois pleine de grâce, d'esprit et de sens, elle était peut-être encore plus qu'elle, quoique avec moins d'ostentation. Du sein de cette estimable famille, je passais chez M. Lambercier, qui, bien comme d'église et prédicateur, était croyant en dedans et faisait presque aussi bien qu'il disait. Sa sœur et lui cultivèrent, par des instructions douces et judicieuses, les principes de piété qu'ils trouvèrent dans mon cœur. Ces dignes gens employèrent pour cela des moyens si vrais, si discrets, si raisonnables, que, loin de m'ennuyer au sermon, je n'en sortais jamais sans être intérieurement touchée et sans faire des résolutions de bien vivre, auxquelles je manquais rarement en y pensant. Chez ma tante Bernard, la dévotion m'ennuyait un peu plus parce qu'elle en faisait un métier. Chez mon maître, je n'y pensais plus guère, sans pourtant penser différemment. Je ne trouvais point de jeunes gens qui me pervertissent. Je devins polisson, mais non libertin. J'avais donc de la religion tout ce qu'un enfant à l'âge où j'étais en pouvait avoir. J'en avais même davantage, car pourquoi déguiser ici ma pensée? Mon enfance ne fut point d'un enfant. Je sentis, je pensais toujours en homme. Ce n'est qu'en grandissant que je suis rentré dans la classe ordinaire. En naissant, j'en étais sorti. L'on rira de me voir me donner modestement pour un prodige. Soit, mais quand on aura bien ri, qu'on trouve un enfant qu'à 6 ans les romans attachent, intéressent, transportent au point d'en pleurer à chaudes larmes, alors je sentirai ma vanité ridicule et je conviendrai que j'ai tort. Ainsi, quand j'ai dit qu'il ne fallait point parler aux enfants de religion si l'on voulait qu'un jour ils en eussent, et qu'ils étaient incapables de connaître Dieu, même à notre manière, j'ai tiré mon sentiment de mes observations, non de ma propre expérience. Je savais qu'elle ne concluait rien pour les autres. Trouvez des Jean-Jacques Rousseau à 6 ans, et parlez-leur de Dieu à 7. Je vous réponds que vous ne courez aucun risque. On sent, je crois, qu'avoir de la religion pour un enfant et même pour un homme, c'est suivre celle où il est né. Quelquefois on en ôte, rarement on y ajoute. La foi dogmatique est un fruit de l'éducation. Outre ce principe commun qui m'attachait au culte de mes pères, j'avais l'aversion particulière à notre ville pour le catholicisme, qu'on nous donnait pour une affreuse idolâtrie, et dont on nous peignait le clergé sous les plus noires couleurs. Ce sentiment allait si loin chez moi qu'au commencement, je n'entrevoyais jamais le dedans d'une église. Je ne rencontrais jamais un prêtre en surplis, je n'entendais jamais la sonnette d'une procession, sans un frémissement de terreur et d'effroi, qui me quitta bientôt dans les villes, mais qui souvent m'a repris dans les paroisses de campagne, plus semblables à celles où je l'avais d'abord éprouvée. Il est vrai que cette impression était singulièrement contrastée par le souvenir des caresses que les curés des environs de Genève font volontiers aux enfants de la ville. En même temps que la sonnette du viatique me faisait peur, la cloche de la messe et de vêpres me rappelait un déjeuner, un goûter, du beurre frais, des fruits, du laitage. Le bon dîner de monsieur de Pontvert avait produit encore un grand effet. Ainsi, je m'étais aisément étourdi sur tout cela, n'envisageant le papisme que par ses liaisons avec les amusements et la gourmandise. Je m'étais apprivoisé sans peine avec l'idée d'y vivre. Mais celle d'y entrer solennellement ne s'était présentée à moi qu'en fuyant, et dans un avenir éloigné. Dans ce moment, il n'y eut plus moyen de prendre le change. Je vis avec l'horreur la plus vive l'espèce d'engagement que j'avais pris, et sa suite inévitable. Les futurs néophytes que j'avais autour de moi n'étaient pas propres à soutenir mon courage par leur exemple, et je ne pus me dissimuler que la sainte œuvre que j'allais faire n'était au fond que l'action d'un bandit. Tout jeune encore, je sentis que quelque religion qui fût la vraie, j'allais vendre la mienne, et que, quand même je choisirais bien, j'allais au fond de mon cœur mentir au Saint-Esprit et mériter le mépris des hommes. Plus j'y pensais, plus je m'indignais contre moi-même. Et je gémissais du sort qui m'avait amené là, comme si ce sort n'eût pas été mon ouvrage. Il y eut des moments où ces réflexions devinrent si fortes que si j'avais un instant trouvé la porte ouverte, je me serais certainement évadé. Mais il ne me fut pas possible, et cette résolution ne tint pas non plus bien fortement. Trop de désirs secrets la combattaient pour ne la pas vaincre. D'ailleurs, l'obstination du dessein formé de ne pas retourner à Genève, la honte, la difficulté même de repasser les monts, l'embarras de me voir loin de mon pays sans amis, sans ressources, tout cela concourait à me faire regarder comme un repentir tardif les remords de ma conscience. J'affectais de me reprocher ce que j'avais fait pour excuser ce que j'allais faire. En aggravant les torts du passé, j'en regardais l'avenir comme une suite nécessaire. Je ne me disais pas « Rien n'est fait encore, et tu peux être innocent si tu veux. » Mais je me disais « J'ai mis du crime dont tu t'es rendu coupable et que tu t'es mis dans la nécessité d'achever. » En effet, quelle rare force d'âme ne me fallait-il point à mon âge pour révoquer tout ce que jusque-là j'avais pu promettre ou laisser espérer, pour rompre les chaînes que je m'étais données, pour déclarer avec intrépidité que je voulais rester dans la religion de mes pères, au risque de tout ce qui en pouvait arriver. Cette vigueur n'était pas de mon âge, et il est peu probable qu'elle eût eu un heureux succès. Les choses étaient trop avancées pour qu'on voulût en avoir le démenti, et plus ma résistance eût été grande, plus, de manière ou d'autre, on se fût fait une loi de la surmonter. Le sophisme qui me perdit est celui de la plupart des hommes, qui se plaignent de manquer de force quand il est déjà trop tard pour en user. La vertu ne nous coûte que par notre faute, et si nous voulions être toujours sages, rarement aurions-nous besoin d'être vertueux. Mais des penchants faciles à surmonter nous entraînent sans résistance. Nous cédons à des tentations légères dont nous méprisons le danger. Insensiblement, nous tombons dans des situations périlleuses dont nous pouvions aisément nous garantir, mais dont nous ne pouvons plus nous tirer sans des efforts héroïques qui nous effraient. Et nous tombons enfin dans l'abîme, en disant à Dieu « Pourquoi m'as-tu fait si faible ?» Mais malgré nous, il répond à nos consciences. « Je t'ai fait trop faible pour sortir du gouffre, parce que je t'ai fait assez fort pour n'y pas tomber. » Je ne pris pas précisément la résolution de me faire catholique. Mais, voyant le terme encore éloigné, je pris le temps de m'apprivoiser à cette idée. Et, en attendant, je me figurais quelque événement imprévu qui me tirerait d'embarras. je résolus, pour gagner du temps, de faire la plus belle défense qu'il me serait possible. Bientôt, ma vanité me dispensa de songer à ma résolution. Et dès que je m'aperçus que j'embarrassais quelquefois ceux qui voulaient m'instruire, il ne m'en fallut pas davantage pour chercher à les terrasser tout à fait. Je mis même à cette entreprise un zèle bien ridicule, car tandis qu'ils travaillaient sur moi, je voulus travailler sur eux. Je croyais bonnement qu'il ne fallait que les convaincre pour les engager à se faire protestants. Ils ne trouvèrent donc pas en moi tout à fait autant de facilité qu'ils en attendaient, ni du côté des Lumières, ni du côté de la volonté. Les protestants sont généralement mieux instruits que les catholiques. Cela doit être. La doctrine des uns exige la discussion, celle des autres, la soumission. Le catholique doit adopter la décision qu'on lui donne, le protestant doit apprendre à se décider. On savait cela, mais on n'attendait ni de mon état ni de mon âge de grandes difficultés pour des gens exercés. D'ailleurs, je n'avais point fait encore ma première communion, ni reçu les instructions qui s'y rapportent. On le savait encore. Mais on ne savait pas qu'en revanche, j'avais été bien instruit chez M. Lambercier, et que de plus, j'avais par devers moi un petit magasin fort incommode à ces messieurs dans l'histoire de l'Église et de l'Empire, que j'avais apprise presque par cœur chez mon père, et depuis à peu près oublié, mais qui me revint à mesure que la dispute s'échauffait. Un vieux prêtre, petit, mais assez vénérable, nous fit en commun la première conférence. Cette conférence était pour mes camarades un catéchisme plutôt qu'une controverse, et il avait plus affaire à les instruire qu'à résoudre leurs objections. Il n'en fut pas de même avec moi. Quand mon tour vint, je l'arrêtai sur tout. Je ne lui sauvai pas une des difficultés que je pus lui faire. Cela rendit la conférence fort longue et fort ennuyeuse pour les assistants. Mon vieux prêtre parlait beaucoup, s'échauffait, battait la campagne et se tirait d'affaire en disant qu'il n'entendait pas bien le français. Le lendemain, de peur que mes indiscrètes objections ne scandalisassent mes camarades, on me mit à part dans une autre chambre avec un autre prêtre, plus jeune, beau parleur, c'est-à-dire faiseur de longues phrases, et content de lui, si jamais docteur le fut. Je ne me laissai pourtant pas trop subjuguer à sa mine imposante, et, sentant qu'après tout je faisais ma tâche, je me mis à lui répondre avec assez d'assurance et à le bourrer par-ci par-là du mieux que je pus. Il croyait m'assommer avec saint Augustin, saint Grégoire et les autres pères, et il trouvait, avec une surprise incroyable, que je maniais tous ces pères-là presque aussi légèrement que lui. Ce n'était pas que je les eusse jamais lus, ni lui peut-être, mais j'en avais retenu beaucoup de passages tirés de mon Le Sueur. Et sitôt qu'il m'en citait un, sans disputer sur la citation, je lui ripostais par un autre du même père, et qui souvent l'embarrassait beaucoup. Il l'emportait pourtant à la fin par deux raisons. L'une, qu'il était le plus fort, et que, me sentant pour ainsi dire à sa merci, je jugeais très bien, quelque jeune que je fusse, qu'il ne fallait pas le pousser à bout. Car je voyais assez que le vieux petit prêtre n'avait pris en amitié ni mon érudition, ni moi. L'autre raison était que le jeune avait de l'étude et que je n'en avais point. Cela faisait qu'il mettait dans sa manière d'argumenter une méthode que je ne pouvais pas suivre, et que, sitôt qu'il se sentait pressé d'une objection imprévue, il la remettait au lendemain, disant que je sortais du sujet présent. Il rejetait même quelquefois toutes mes citations, soutenant qu'elles étaient fausses, et, s'offrant à m'aller chercher le livre, me défiait de les y trouver. Il sentait qu'il ne risquait pas grand-chose, et qu'avec toute mon érudition d'emprunt, j'étais trop peu exercée à manier les livres, et trop peu latiniste pour trouver un passage dans un gros volume, quand même je serais assurée qu'il y ait. je le soupçonne même d'avoir usé de l'infidélité dont il accusait les ministres et d'avoir fabriqué quelquefois des passages pour se tirer d'une objection qui l'incommodait. Tandis que duraient ces petites ergoteries et que les jours se passaient à disputer, à marmotter des prières et à faire le vaurien, il m'arriva une petite vilaine aventure assez dégoûtante et qui faillit même tourner fort mal pour moi. Il n'y a point d'âme si vile et de cœur si barbare qui ne soit susceptible de quelque sorte d'attachement. L'un de ces deux bandits, qui se disait mort, me prit en affection. Il m'accostait volontiers, causait avec moi dans son baragouin franc, me rendait de petits services, me faisait part quelquefois de sa portion à table, et me donnait surtout de fréquents baisers avec une ardeur qui m'était fort incommode. Quelque effroi que j'eusse naturellement de ce visage de pain d'épices orné d'une longue balafre et de ce regard allumé qui semblait plutôt furieux que tendre, j'endurais ses baisers en me disant en moi-même « Le pauvre homme a conçu pour moi une amitié bien vive, j'aurais tort de le rebuter. » Il passait par degrés à des manières plus libres et me tenait quelquefois de si singuliers propos que je croyais que la tête lui avait tourné. Un soir, il voulut venir coucher avec moi. Je m'y opposais, disant que mon lit était trop petit. Et il me pressa d'aller dans le sien. Je le refusai encore, car ce misérable était si malpropre et puait si fort le tabac mâché qu'il me faisait mal au cœur. Le lendemain, d'assez bon matin, nous étions tous deux seuls dans la salle d'assemblée. Il recommença ses caresses, mais avec des mouvements si violents qu'il en était effrayant. Enfin, il voulut passer par degrés aux privautés les plus choquantes et me forcer, en disposant de ma main, d'en faire autant. Je me dégageai impétueusement en poussant un cri et faisant un saut en arrière, et, sans marquer ni indignation ni colère, car je n'avais pas la moindre idée de ce dont il s'agissait, j'exprimai ma surprise et mon dégoût avec tant d'énergie qu'il me laissa là. Mais tandis qu'il achevait de se démener, je vis partir vers la cheminée et tomber à terre je ne sais quoi de gluant et de blanchâtre qui me fit soulever le cœur. Je m'élançai sur le balcon, plus ému, plus troublé, plus effrayé même que je ne l'avais été de ma vie, et prêt à me trouver mal. Je ne pouvais comprendre ce qu'avait ce malheureux. Je le crus atteint du haut mal ou de quelque autre frénésie encore plus terrible. Et véritablement, je ne sache rien de plus hideux à voir pour quelqu'un de sang-froid que cet obscène et sale maintien et ce visage affreux enflammé de la plus brutale concupiscence. Je n'ai jamais vu d'autre homme en pareil état. Mais si nous sommes ainsi dans nos transports près des femmes, il faut qu'elles aient les yeux bien fascinés pour ne pas nous prendre en horreur. Je n'eus rien de plus pressé que d'aller conter à tout le monde ce qui venait de m'arriver. Notre vieille intendante me dit de me taire, mais je vis que cette histoire l'avait fort affectée, et je l'entendais grommeler entre ses dents. « Can maledette, bruta bestia !» Comme je ne comprenais pas pourquoi je devais me taire, j'allais toujours mon train malgré la défense, et je bavardais tant que le lendemain, un des administrateurs vint de bon matin m'adresser une mercuriale assez vive, m'accusant de commettre l'honneur d'une maison sainte et de faire beaucoup de bruit pour peu de mal. Il prolongea sa censure en m'expliquant beaucoup de choses que j'ignorais, mais qu'il ne croyait pas m'apprendre, persuadé que je m'étais défendu, sachant ce qu'on me voulait, mais n'y voulant pas consentir. Il me dit bravement que c'était une œuvre défendue comme la paillardise, mais dont au reste l'intention n'était pas plus offensante pour la personne qui en était l'objet, et qu'il n'y avait pas de quoi s'irriter si fort pour avoir été trouvé aimable. Il me dit sans détour que lui-même, dans sa jeunesse, avait eu le même honneur, et qu'ayant été surpris hors d'état de faire résistance, il n'avait rien trouvé là de si cruel. Il poussa l'impudence jusqu'à se servir des propres termes, et, s'imaginant que la cause de ma résistance était la crainte de la douleur, il m'assura que cette crainte était vaine et qu'il ne fallait pas s'alarmer de rien. J'écoutais cet infâme avec un étonnement d'autant plus grand qu'il ne parlait point pour lui-même. Il semblait ne m'instruire que pour mon bien. Son discours lui paraissait si simple qu'il n'avait pas même cherché le secret du tête-à-tête, et nous avions en tiers un ecclésiastique que tout cela n'effarouchait pas plus que lui. Cet air naturel m'en imposa tellement que j'en vins à croire que c'était sans doute un usage admis dans le monde, et dont je n'avais pas eu plus tôt occasion d'être instruit. Cela fit que je l'écoutais sans colère, mais non sans dégoût. L'image de ce qui lui était arrivé, mais surtout de ce que j'avais vu, restait si fortement empreinte dans ma mémoire qu'en y pensant, le cœur me soulevait encore. Sans que j'en susse davantage, la version de la chose s'étendit à l'apologiste, et je ne pus me contraindre assez pour qu'il ne vît pas le mauvais effet de ses leçons. Il me lança un regard peu caressant, et dès lors, il n'épargna rien pour me rendre le séjour de l'hospice désagréable. Il y parvint si bien que, n'apercevant pour en sortir qu'une seule voie, je m'empressai de la prendre autant que jusque-là je m'étais efforcé de l'éloigner. Cette aventure me mit pour l'avenir à couvert des entreprises des chevaliers de la Manchette. Et la vue des gens qui passaient pour en être, me rappelant l'air et les gestes de mon effroyable mort, m'a toujours inspiré tant d'horreur que j'avais peine à la cacher. Au contraire, les femmes gagnèrent beaucoup dans mon esprit à cette comparaison. Il me semblait que je leur devais en tendresse de sentiment, en hommage de ma personne, la réparation des offenses de mon sexe. Et la plus laide guenon devenait à mes yeux un objet adorable, par le souvenir de ce faux Africain. Pour lui, je ne sais ce qu'on put lui dire. Il ne me parut pas que, excepté la dame Lorenza, personne le vit de plus mauvais œil qu'auparavant. Cependant, il ne m'accosta ni ne me parla plus. 8 jours après, il fut baptisé en grande cérémonie et habillé de blanc de la tête aux pieds pour représenter la candeur de son âme régénérée. Le lendemain, il sortit de l'hospice, et je ne l'ai jamais revu. Mon tour vint un mois après, car il fallut tout ce temps-là pour donner à mes directeurs l'honneur d'une conversion difficile, et l'on me fit passer en revue tous les dogmes pour triompher de ma nouvelle docilité. Enfin, suffisamment instruit et suffisamment disposé au gré de mes maîtres, je fus mené processionnellement à l'église métropolitaine de Saint-Jean pour y faire une abjuration solennelle et recevoir les accessoires du baptême, quoiqu'on ne me baptisât pas réellement. Mais, comme ce sont à peu près les mêmes cérémonies, cela sert à persuader au peuple que les protestants ne sont pas chrétiens. J'étais revêtu d'une certaine robe grise, garnie de brandebourgs blancs, et destiné pour ces sortes d'occasions. 2 hommes portaient, devant et derrière moi, des bassins de cuivre sur lesquels ils frappaient avec une clé, et où chacun mettait son aumône au gré de sa dévotion ou de l'intérêt qu'il prenait au nouveau converti. Enfin, rien du faste catholique ne fut omis pour rendre la solennité plus édifiante pour le public et plus humiliante pour moi. Il n'y eut que l'habit blanc qui m'eût été fort utile, et qu'on ne me donna pas comme aux morts, attendu que je n'avais pas l'honneur d'être juif. Ce ne fut pas tout. Il fallut ensuite aller à l'Inquisition recevoir l'absolution du crime d'hérésie, et rentrer dans le sein de l'Église avec la même cérémonie à laquelle Henri IV fut soumis par son ambassadeur. L'air et les manières du très révérend père inquisiteur n'étaient pas propres à dissiper la terreur secrète qui m'avait saisi en entrant dans cette maison. Après plusieurs questions sur ma foi, sur mon état, sur ma famille, il me demanda brusquement si ma mère était damnée, L'effroi me fit réprimer le premier mouvement de mon indignation. Je me contentai de répondre que je voulais espérer qu'elle ne l'était pas, et que Dieu avait pu l'éclairer à sa dernière heure. Le moine se tut, mais il fit une grimace qui ne me parut point du tout un signe d'approbation. Tout cela fait, au moment où je pensais être enfin placé selon mes espérances, on me mit à la porte avec un peu plus de 20 francs, en petite monnaie qu'avait produit ma quête. On me recommanda de vivre en bon chrétien, d'être fidèle à la grâce, on me souhaita bonne fortune, on ferma sur moi la porte, et tout disparut. Ainsi s'éclipsèrent en un instant toutes mes grandes espérances, et il ne me resta de la démarche intéressée que je venais de faire que le souvenir d'avoir été apostat et dupe tout à la fois. Il est aisé de juger quelle brusque révolution dut se faire dans mes idées, lorsque, de mes brillants projets de fortune, je me vis tomber dans la plus complète misère, et qu'après avoir délibéré le matin sur le choix du palais que j'habiterais, je me vis le soir réduit à coucher dans la rue. On croira que je commençais par me livrer à un désespoir d'autant plus cruel que le regret de mes fautes devait s'irriter, en me reprochant que tout mon malheur était mon ouvrage. Rien de tout cela. Je venais pour la première fois de ma vie d'être enfermé pendant plus de 2 mois. Le premier sentiment que je goûtais fut celui de la liberté que j'avais recouvrée. Après un long esclavage, redevenu maître de moi-même et de mes actions, je me voyais au milieu d'une grande ville abondante en ressources, pleine de gens de condition, dont mes talents et mon mérite ne pouvaient manquer de me faire accueillir, sitôt que j'en serais connu. J'avais, de plus, tout le temps d'attendre, et 20 francs que j'avais dans ma poche me semblaient un trésor qui ne pouvait s'épuiser. J'en pouvais disposer à mon gré, sans rendre compte à personne. C'était la première fois que je m'étais vue si riche. Loin de me livrer au découragement et aux larmes, je ne fis que changer d'espérance, et l'amour-propre n'y perdit rien. Jamais je ne me sentis tant de confiance et de sécurité. Je croyais déjà ma fortune faite, et je trouvais beau de n'en avoir l'obligation qu'à moi seule. La première chose que je fis fut de satisfaire ma curiosité en parcourant toute la ville, quand ce n'eût été que pour faire un acte de ma liberté. J'allai voir monter la garde. Les instruments militaires me plaisaient beaucoup. Je suivis des processions. J'aimais le faux bourdon des prêtres. J'allai voir le palais du roi. J'en approchais avec crainte. Mais voyant d'autres gens entrer, je fis comme eux. On me laissa faire. Peut-être dus-je cette grâce au petit paquet que j'avais sous le bras. Quoi qu'il en soit, je conçus une grande opinion de moi-même en me trouvant dans ce palais. Déjà, je m'en regardais presque comme un habitant. Enfin, à force d'aller et venir, je me lassais. J'avais faim, il faisait chaud. J'entrai chez une marchande de laitage. On me donna de la djunka, du lait caillé. Et avec 2 grises de cet excellent pain de Piémont, que j'aime plus qu'aucun autre, je fis, pour mes 5 ou 6 sous, un des bons dîners que j'ai fait de mes jours. Il fallut chercher un gîte. Comme je savais déjà assez de Piémontais pour me faire entendre, il ne fut pas difficile à trouver, et j'eus la prudence de le choisir plus selon ma bourse que selon mes goûts. On m'enseigna dans la rue du Pot la femme d'un soldat, qui retirait à 1 sou par nuit des domestiques hors de service. Je trouvai chez elle un grabat vide et je m'y établis. Elle était jeune et nouvellement mariée, quoiqu'elle eût déjà 5 ou 6 enfants. Nous couchâmes tous dans la même chambre, la mère, les enfants, les hôtes. Et cela dura de cette façon tant que je restai chez elle. Au demeurant, c'était une bonne femme, jurant comme un charretier, toujours débraillée et décoiffée, mais douce de cœur, officieuse, qui me prit en amitié, et qui même me fut utile. je passai plusieurs jours à me livrer uniquement au plaisir de l'indépendance et de la curiosité. J'allais, errant dedans et dehors la ville, furetant, visitant tout ce qui me paraissait curieux et nouveau. Et tout l'était pour un jeune homme sortant de sa niche qui n'avait jamais vu de capitale. J'étais surtout fort exact à faire ma cour, et j'assistais régulièrement tous les matins à la messe du roi. Je trouvais beau de me voir dans la même chapelle avec ce prince et sa suite. Mais ma passion pour la musique, qui commençait à se déclarer, avait plus de part à mon assiduité que la pompe de la cour, qui, bientôt vue, est toujours la même, ne frappe pas longtemps. Le roi de Sardaigne avait alors la meilleure symphonie de l'Europe. Somi, Desjardins, les Bezzuzzi y brillaient alternativement. Il n'en fallait pas tant pour attirer un jeune homme que le jeu du moindre instrument, pourvu qu'il fût juste, transportait d'aise. Du reste, je n'avais pour la magnificence qui frappait mes yeux qu'une admiration stupide et sans convoitise. La seule chose qui m'intéressa dans tout l'éclat de la cour, était de voir s'il n'y aurait point là quelque jeune princesse qui méritât mon hommage et avec laquelle je pusse faire un roman. Je faillis en commencer un, dans un état moins brillant, mais où, si je l'eusse mis à fin, j'aurais trouvé des plaisirs mille fois plus délicieux. Quoique je vécusse avec beaucoup d'économie, ma bourse insensiblement s'épuisait. Cette économie, au reste, était moins l'effet de la prudence que d'une simplicité de goût que même aujourd'hui l'usage des grandes tables n'a point altérée. Je ne connaissais pas, et je ne connais pas encore, de meilleure chère que celle d'un repas rustique, avec du laitage, des œufs, des herbes, du fromage, du pain bis et du vin passable. On est toujours sûr de me bien régaler. Mon bon appétit fera le reste, quand un maître d'hôtel et des laquais autour de moi ne me rassasieront pas de leur important aspect. Je faisais alors de beaucoup meilleurs repas, avec 6 ou 7 sous de dépenses, que je ne les ai faits depuis à 6 ou 7 francs. J'étais donc sobre, faute d'être tenté de ne pas l'être. Encore ai-je tort d'appeler tout cela sobriété, car j'y mettais toute la sensualité possible. Mes poires, ma djunka, mon fromage, mes grisses et quelques verres d'un gros vin de Montferrat à couper par tranches me rendaient le plus heureux des gourmands. Mais encore avec tout cela, pouvait-on voir la fin de 20 livres? C'était ce que j'apercevais plus sensiblement de jour en jour. Et, malgré l'étourderie de mon âge, mon inquiétude sur l'avenir alla bientôt jusqu'à l'effroi. De tous mes châteaux en Espagne, il ne me resta que celui de trouver une occupation qui me fît vivre. Encore n'était-il pas facile à réaliser. Je songeais à mon ancien métier, mais je ne le savais pas assez pour aller travailler chez un maître, et les maîtres même n'abondaient pas à Turin. Je pris donc, en attendant mieux, le parti d'aller m'offrir de boutique en boutique pour graver un chiffre ou des armes sur de la vaisselle, espérant tenter les gens par le bon marché en me mettant à leur discrétion. Cet expédient ne fut pas fort heureux. Je fus presque partout éconduit. Et ce que je trouvais à faire était si peu de choses qu'à peine y gagnais-je quelques repas. Un jour, cependant, passant d'assez bon matin dans la Contra Nova, je vis, à travers les vitres d'un comptoir, une jeune marchande de si bonne grâce et d'un air si attirant que, malgré ma timidité près des dames, je n'hésitai pas d'entrer et de lui offrir mon petit talent. Elle ne me rebuta point, me fit asseoir, conter ma petite histoire, me plaignit, me dit d'avoir bon courage et que les bons chrétiens ne m'abandonneraient pas. Puis, tandis qu'elle envoyait chercher chez un orfèvre du voisinage les outils dont j'avais dit avoir besoin, elle monta dans sa cuisine et m'apporta elle-même à déjeuner. Ce début me parut de bon augure. La suite ne le démentit pas. Elle parut contente de mon petit travail, encore plus de mon petit babil, quand je me fus un peu rassurée. Car elle était brillante et parée, et malgré son air gracieux, cet éclat m'en avait imposé. Mais son accueil plein de bonté, son ton compatissant, ses manières douces et caressantes me mirent bientôt à mon aise. Je vis que je réussissais, et cela me fit réussir davantage. Mais, quoique italienne, et trop jolie pour n'être pas un peu coquette, elle était pourtant si modeste, et moi si timide, qu'il était difficile que cela vînt si tôt à bien. On ne nous laissa pas le temps d'achever l'aventure. Je ne m'en rappelle qu'avec plus de charme les courts moments que j'ai passés auprès d'elle, et je puis dire y avoir goûté dans leurs prémices les plus doux ainsi que les plus purs plaisirs de l'amour.